Wind of Change, un morceau de Scorpion qui sort, tu le disais hein, fort justement Frédéric en 91, inspiré par la fin de la guerre froide et la chute du mur. Et là la version que vous écoutez c'est celle de 2011 qui avait été choisie par Gorbatchev pour fêter ses 80 ans. Merci infiniment cher Frédéric. Je rappelle que cet article sur le Moscou Music Peace Festival est dans le Géo Histoire qui est toujours dans les bacs mais dans les kiosques avec en une le nazisme et les femmes. Et tu me disais la musique était importante aussi. Je fais une toute petite digression pour les nazis.
Ça a toujours été important pour toutes les cultures, mais les nazis étaient un peu obsédés par la musique interdite, la musique dégénérée. Donc c'était surtout celle qui devait être mise au banc.
Merci infiniment. Je rappelle ce livre incroyable que tu nous as offert et dans lequel on puise toujours. D'ailleurs, il va falloir que tu viennes nous en reparler. 12 chansons qui ont fait l'histoire aux éditions Perrin. C'était Frédéric Granier que vous retrouvez ce mois-ci dans Géo Histoire, le nazisme et les femmes. Et puis ça.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort très mystérieuse de Joséphine Bernard. À l'hiver 2018, cette jeune femme qui travaille à Disneyland Paris est retrouvée pendue chez elle en Seine-et-Marne. Guerre de doute pour les policiers. Il s'agit très certainement d'un suicide. Samedi 13 janvier 2018 au matin, Sylvie et Richard Bernard, qui habitent près de Bordeaux, sont surpris de ne pas avoir de nouvelles de leur fille. Joséphine, 27 ans, qui vit à 600 km de chez ses parents en région parisienne, n'est pas du genre à rester silencieuse. La dernière fois que la maman lui a parlé, c'était il y a 2 jours. Joséphine lui disait qu'elle allait prendre un peu de congé pour partir avec son copain. Le papa finit par trouver le numéro de ce jeune homme, lequel indique que lui non plus n'a pas de nouvelles. Il va donc se rendre à l'appartement de Joséphine en plein centre de la petite ville de Bailly-Romainvilliers à 40 minutes de Paris. À 20h26, le compagnon entré dans le logement avec sa clé appelle en urgence le commissariat de Chessy. Il vient de découvrir le corps inerte de Joséphine. Elle s'est pendue. Les secours et la police sont sur place. Un médecin constate le décès. Il estime que la mort remonte à au moins 24 heures. Les policiers constatent que le corps est allongé à proximité de la porte d'entrée. La jeune femme, qui mesure 1,72 m, se serait pendue en position presque assise à une petite patère installée à seulement 1,50 m de hauteur. Un foulard de coton noir est noué autour du cou. Pas de traces de lutte, pas d'effraction, pas de vol dans le logement. Le petit ami, en état de choc, ayant du mal à parler, essoufflé et perdu selon un policier, raconte qu'il devait passer le week-end à Center Park avec Joséphine. Il avait dû annuler au dernier moment. Elle l'avait très mal pris. Richard Bernard, le papa qui avait un sombre pressentiment, a pris la route depuis Bordeaux. Il arrive à Bailly-Romainvilliers après la police. Il apprend alors que sa fille s'est suicidée. Elle n'a laissé aucun message. Dimanche 14 janvier, les parents Sylvie et Richard Bernard, abasourdis, ont bien du mal à croire que Joséphine a mis fin à ses jours. Tout le contraire de sa personnalité. Impensable qu'elle n'ait laissé aucune explication. Leur fille, qui travaillait à Disneyland Paris, était une femme joyeuse, pleine de projets, pas vraiment sujette à la dépression. Elle n'aurait jamais fait un truc pareil, ne serait-ce que vis-à-vis de ses parents et de ses frères qu'elle adorait, indique Pauline, l'une de ses meilleures amies. Vendredi 12, veille de la découverte du corps, elle a fait des courses à 16h dans un supermarché, sac retrouvé intact dans l'appartement. Elle a conversé avec des copines sur une messagerie pour l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie d'enfance. Elle a aussi adressé un message à une cousine pour savoir ce que sa fille souhaitait pour ses 10 ans. Rien qui ressemble à quelqu'un qui veut en finir avec la vie, indique la maman. Malgré les doutes de la famille et des amis entendus au commissariat, la police n'en démord pas. Nous connaissons notre métier, c'est un suicide, assure un fonctionnaire au père de Joséphine. Lundi 15 janvier, Sylvie Bernard, la mère, porte plainte contre X pour meurtre. La famille souhaite que des auditions soient menées, dont celle du petit ami. Le corps est transporté à l'hôpital de Meaux. Le parquet n'a curieusement pas ordonné d'autopsie, mais un simple examen. Le décès remonterait au vendredi 12 autour de 18h, soit juste après les derniers messages envoyés. Des traces rouges aux épaules ne sont pas expliquées. Quelques mois plus tard, la famille apprendra que le docteur qui a examiné Joséphine n'est pas du tout légiste et il n'est même pas inscrit à l'ordre des médecins. pas d'enquête approfondie, pas de relevé ADN, pas d'expertise téléphonique. 3 jours seulement après la découverte du corps, toutes les affaires de Joséphine sont rendues aux parents, parmi lesquels ses téléphones et même l'écharpe qui lui serrait le cou. Les scellés apposés sur l'appartement sont levés. 3 jours. 3 jours seulement pour boucler une enquête aussi compliquée, enquête ouverte et puis refermée, il n'y a pas d'autre terme, avec cette certitude absolue des enquêteurs et des policiers locaux, c'est un suicide. On va voir ce que vont donner tout de même les auditions dans celle du petit ami. Et le couple très spécial que formait Joséphine Bernard avec cet homme, ce sera dans la suite de l'heure du crime. On va venir à l'enquête qui va continuer quand même, avec difficulté, mais qui va se poursuivre. Mais il faut reprendre l'affaire au début. Il y a cette scène de suicide, selon les policiers, même si on est sûr de rien. Et on va voir que c'est une scène qui est pas tout à fait conforme à celle d'un véritable suicide. Bonjour Maître Corinne Herman.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Paris et dans cette affaire, vous êtes aujourd'hui l'avocate de la famille de Joséphine Bernard. On va entendre dans un instant Sylvie Bernard, la maman, qui est également l'une de nos invitées aujourd'hui dans cette heure du crime. Alors je le disais, Maître Corinne Herman, il y a cette jeune femme qui est pendue quasiment derrière la porte d'entrée. À cette petite patère, elle s'est pendue avec une écharpe noire en tissu. Ça va pas, il y a rien qui va tout de suite dans cette scène. On comprend pas très bien.
Ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que la petite patère, elle n'a pas été testée. C'est vrai que l'écharpe, on se demande si elle est susceptible de permettre une pendaison, parce qu'il y a certains tissus qui sont plus difficiles à entraîner une pendaison. C'est vrai que c'est une scène de crime qui peut être reconstituée. Ça peut être une mise en scène. Mm-hmm. Mais en tous les cas, le problème, c'est que ça n'a pas été exploité et vérifié. On a conclu tout de suite et on a tout de suite, finalement, fait disparaître un certain nombre d'éléments.
Comment expliquer, vous connaissez bien vous ce genre d'affaires et pénales et criminelles, on peut se tromper au début d'une enquête, mais là il y a une persuasion de la part des enquêteurs et des policiers locaux, ils disent c'est un suicide, ils n'en démordent pas.
Eh bien on peut pas se tromper en fait au début d'une enquête, on peut avoir une mauvaise évaluation,
interprétation.
Voilà, mais en fait quand on est enquêteur, quand on est magistrat, on est là pour vérifier les choses, on n'est pas là pour avoir des convictions, on est là pour vérifier les choses et la première chose c'est de vérifier, or ce n'est pas ce qui est fait. On est passé aux conclusions immédiatement et en 3 jours, tout est balayé et tout est modifié. Tout est, j'ai envie de dire, saboté parce que je vois pas d'autre mot.
Et là, effectivement, après, c'est difficile, vous le savez bien, Corinne Herman, c'est difficile ensuite de rattraper le temps perdu. Parce que les premières constatations, elles sont capitales.
Alors, les premières constatations sont capitales. Heureusement, il reste toujours un petit bout de quelque chose. C'est pour ça que je crois au cold case, vous le savez.
Tout à fait.
C'est vraiment une religion pour moi, tous ces dossiers. Là, c'est pas encore un dossier cold case au sens 30 ans après. Après, on peut revenir sur une affaire et la résoudre. 6 ans après, on peut revenir sur une affaire et la résoudre. C'est vrai que ce qui est un petit peu nouveau dans cette affaire, qu'on ne voit pas forcément dans ce type d'affaire habituellement, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait disparaître ce qui pouvait nous permettre de travailler sur un homicide. Mais il y a du travail encore
et on peut saluer la famille de Joséphine qui a vraiment fait le travail qu'auraient dû peut-être faire les enquêteurs, ça arrive de temps en temps, mais là cette émission effectivement elle est dédiée totalement à Joséphine Bernard parce que c'est elle la victime et on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Bonjour Sylvie Bernard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Je sais que pour vous, c'est un moment qui est un petit peu cruel parce qu'on revient sur cette affaire. Mais c'est important qu'on parle de Joséphine parce que il y a beaucoup de choses anormales qui se sont déroulées dans cette enquête. Et il est temps sans doute d'avancer sur le chemin de la vérité. Sylvie Bernard, tout de suite vous dites le suicide c'est impossible. Pourquoi vous dites ça tout de suite ?
Ben en fait au départ c'était clairement une intuition de parents parce que on connaît Joséphine c'était un rayon de soleil notre fille une joie de vivre absolue et puis elle n'a jamais donné le moindre signe de la moindre même pas un état de dépressif, rien, jamais, c'est une battante, elle avait une force phénoménale, elle adorait son travail, elle était bien installée dans son appartement, elle était loin d'être isolée, aussi bien en termes de famille qu'en termes d'amis, donc déjà, voilà, au départ, c'était le profil de Joséphine, Et surtout aussi, par contre, je savais, parce qu'elle m'avait parlé de sa liaison, évidemment, et elle me l'avait présenté comme une liaison un peu compliquée, parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille de son petit copain.
Alors ça, on va y revenir, effectivement, ça vous fait tiquer, hein, tout de suite, la famille, cette liaison qui est compliquée, avec cette vie mouvementée, dont on va revenir dessus, Sylvie Bernard. Mais je voudrais quand même savoir, lorsque vous allez au commissariat, vous racontez tout ça, votre fille, elle donnait des nouvelles, elle n'est pas suicidaire, etc. On vous croit pas?
Ah non, pas du tout, non. On ne croit pas. On ne croit pas. Je suis une maman dans le déni. Eux, c'est leur métier. Ils savent ce que c'est. C'est très très difficile de maquiller un suicide en homicide. C'est pas possible. Voilà. Joséphine était trop déçue parce que son petit copain finalement a annulé son week-end à la dernière minute.
Ouais. Donc ça effectivement, ça tient pas. D'ailleurs, parce que les amis de Joséphine qui la connaissent moins que vous, mais qui la connaissent, vont dire que c'est pas possible. C'est pas du tout son genre. Est-ce que vous êtes encore une question?
Mais si même pas que les.
Allez-y, je vous en prie.
Même pas que les amis, toute la famille, enfin toute notre famille, enfin ça correspond pas. Mm-mm. Ça correspond pas au profil de Joséphine.
Encore une question, Sylvie Bernard. Vous êtes surpris par le fait qu'on vous redonne, on est trois jours après, on vous donne toutes les affaires de Joséphine, il n'y a plus de scellé sur l'appartement, on vous donne même l'écharpe avec laquelle elle se serait pendue. Je pense que pour une famille, c'est épouvantable, je sais pas, enfin, j'ai rarement vu ça dans une affaire.
Ouais. Ben, on a surtout, enfin, oui, tout ça, ça nous a vraiment stupéfaits, mais ce qui nous a scotché aussi, c'est que même l'enquêteur en charge du dossier, enfin, de ce qui était censé être l'enquête, nous a ouvert les scellés, a ouvert la porte de l'appartement, il nous a donné les clés en nous souhaitant bon courage et il est parti. Il n'est pas rentré dans l'appartement où a eu lieu le crime. Enfin,
ouais, bah c'est parce que l'affaire. Oui, parce que l'affaire, effectivement, elle était pliée. Voilà, c'est tout.
C'est ça. C'est ça.
Donc ça effectivement, on peut se poser quand même des questions sur ce départ d'enquête, maître Corinne Herman. Un mot quand même sur cette autopsie qui n'en est pas une. Là aussi, il y a un mystère, parce que dès lors qu'il y a un suicide, très souvent, je dis pas que c'est systématique, mais très souvent, il y a une autopsie qui est ordonnée, parce qu'on sait jamais trop si la personne a pu être empoisonnée, etc. Là, il y a rien.
Non, et une mort violente, c'est automatiquement un obstacle médico-légal et une autopsie. Donc, c'est le minimum, mais quand on veut pas explorer, quand on a un biais d'analyse, qu'on part d'une hypothèse avant de la vérifier, eh bien on en arrive à tout faire de travers et avec des personnes qui sont pas professionnelles.
Juste en mots, avec un médecin qui n'est pas médecin.
Alors un médecin qui a quand même les compétences, mais un médecin qui est pas un médecin habilité à faire des levées de corps et à faire de l'autopsie.
La famille veut des éclaircissements sur le petit ami, il va donc être entendu. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Avec cet homme, elle vivait une relation toxique. Il lui mentait. Il ne voulait pas qu'on découvre qu'il continuait à la voir. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Trick. sur RTL.
Heure du crime, consacrée aujourd'hui à la mort controversée de Joséphine Bernard, 27 ans, janvier 2018, dans son appartement en Seine-et-Marne. Suicide par pendaison, affirme la police. Enquête express, la famille et les amis penchent pour un crime. Le petit ami va être interrogé à 3 reprises. Lundi 15 janvier 2018, celui qui est présenté comme le compagnon de Joséphine Bernard est entendu pour la première fois par les enquêteurs. Il fréquentait la jeune femme depuis 4 ans. Il s'était connu à Disneyland Paris où il travaille comme agent de sécurité. Un coup de foudre, Joséphine était très amoureuse de lui, va témoigner une amie de la victime. Joséphine avait toutefois eu la surprise de découvrir un an plus tard que cet homme était marié et avait un enfant. Il lui avait caché cette double vie. Face aux policiers, le témoin indique que 2 jours avant la découverte du corps, il s'est pris la tête avec Joséphine. Jeudi 11, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait réservé un week-end en amoureux à Center Park. Il lui a annoncé qu'il ne pouvait pas venir. Ils se sont disputés, elle l'a rappelé à 17h52 et lui a dit « Si t'es plus dans ma vie, je vais me suicider ». Selon le petit ami, Joséphine était familière de ce genre de menaces. Une fois, dit-il, elle avait voulu se jeter par la fenêtre. Réentendu 2 semaines plus tard, le témoin revient sur ses propos. Il ne se souvient plus vraiment du coup de fil de 17h52. Il ne fait plus allusion à de quelconques pensées suicidaires de la victime. Il se rappelle simplement que Joséphine insistait pour qu'il se libère car elle avait besoin de passer ce week-end de repos avec lui. Pour le vendredi 12, jour où la jeune femme est morte, il a un alibi. Il était à Troyes, dans l'Aube, avec sa femme et un couple d'amis. Ils sont rentrés le soir. Le père de Joséphine l'a alors appelé. Il s'est rendu à l'appartement et a découvert le corps. La famille de Joséphine Bernard et ses amis étaient au courant de cette relation sentimentale agitée entre la jeune femme et son collègue. Une quinzaine de ruptures éphémères et de réconciliations. Une copine de la victime explique que Joséphine était habituée aux absences imprévues de son compagnon. Elle se mettait toujours en colère, mais jamais elle se serait suicidée pour un homme, et encore moins pour un week-end fichu, dit-elle. Un ami de travail de Joséphine décrit une liaison toxique avec un individu peu fiable et qui a toujours cherché des excuses pour justifier ses absences. Des témoins expliquent que l'agent de sécurité mentait fréquemment en raison de sa situation d'homme marié. Il ne voulait pas que sa famille et sa belle-famille, qui n'appréciaient pas cette liaison, apprennent qu'il continuait à voir Joséphine. Mercredi 30 mai 2018, le procureur de Meaux annonce aux parents de Joséphine Bernard que le dossier est classé sans suite. La thèse du suicide est privilégiée. L'enquête n'a pas permis de dégager d'autres pistes. Entre-temps, les parents ont constaté que le compte Google de leur fille a été activé dans les heures suivant sa mort. Activation manuelle, selon eux. Un policier leur a confié en tête-à-tête que la scène de découverte du corps était très inhabituelle. Il les a encouragés à poursuivre leurs investigations. Les parents ont ainsi découvert que le podomètre de Joséphine a comptabilisé 30 pas juste avant le décès, l'équivalent d'une descente du 3e étage jusqu'au rez-de-chaussée de son immeuble. Serait-elle descendue pour ouvrir la porte à quelqu'un qu'elle connaissait ? 19 juillet, les parents déposent plainte avec constitution de partie civile pour homicide volontaire. Un juge d'instruction est désigné. Le corps de Joséphine est exhumé. 7 mois après la mort, l'autopsie ne permet pas de déceler un acte criminel. Le légiste maintient l'hypothèse du suicide, même s'il note que trop de temps s'est écoulé pour réaliser cette autopsie. Un délai préjudiciable, écrit-il. Selon lui, seule l'enquête auprès des proches pourra dire si Joséphine Bernard s'est donné la mort. Des proches, des parents qui sont loin d'en avoir fini avec les surprises et les rebondissements, des téléphones qui ont été vidés de leur contenu, comme si aucun message n'avait été échangé, ou encore une jeune femme qui ne se sentait peut-être pas vraiment en sécurité. On va se pencher sur ces mystères dans les prochains chapitres de l'émission. Là, le compagnon est entendu par les enquêteurs 3 fois. Une première fois, il dit que Joséphine avait menacé de se suicider. Sylvie Bernard, vous êtes la maman de Joséphine Bernard et vous nous faites l'honneur aujourd'hui d'être avec nous dans l'heure du crime. On va essayer de vous aider. Encore une fois, cette émission, elle est dédiée à votre fille, Joséphine. Cet homme, vous m'avez dit tout à l'heure, vous le connaissiez. Joséphine, vous en parlez assez souvent de ce compagnon, entre guillemets.
Alors, Joséphine m'en parlait, on l'a rencontré plusieurs fois, oui. Il est même venu à la maison.
Qu'est-ce qu'elle vous disait sur ses relations avec lui ? C'était un peu compliqué ?
pas ses relations avec lui. Ses relations avec lui n'étaient pas compliquées. C'était les relations entre elle et la famille. Ils lui disent, enfin, de ce que Joséphine me disait, c'est que elle ne pouvait pas rencontrer la famille de son petit ami parce que elle n'était pas la bienvenue. C'est voilà, c'est difficile à dire, mais c'est une famille de religion musulmane. Mmh. Joséphine était européenne, blanche et
catholique.
Non, musulmane, donc voilà, non musulmane en tout cas, et donc
elle n'était pas
acceptée.
Elle n'était pas acceptée, elle se sentait rejetée. Et cette famille, bon, ne la portait peut-être pas dans son cœur. Son alibi.
Même pire que ça, elle recevait régulièrement, et ça justement, l'étude des fadettes de son téléphone le montre. Elle recevait des appels anonymes et qui en fait émanaient de personnes de proches de la famille du petit ami, et elle a dû changer de numéro de téléphone deux fois. Et son profil Facebook aussi, elle l'a modifié plusieurs fois, et quand je lui demandais pourquoi, elle me disait que c'était pour éviter les indésirables, qu'elle me disait, donc sans me préciser vraiment de qui il s'agissait. Mais
Est-ce qu'elle souffrait, Joséphine, de cette situation un peu compliquée? Elle pouvait pas voir, entre guillemets, sa belle famille. Cet homme était marié ou en couple avec un enfant. Ça faisait beaucoup, peut-être, pour elle, non?
Oui. Je pense qu'elle en souffrait. C'est évident. Mais je pense aussi qu'elle se protégeait et qu'elle ne voulait pas s'engager davantage tant que les choses n'étaient pas réglées. À savoir, en fait, cet homme n'était pas marié administrativement parlant. C'était un mariage religieux là aussi. Mmh. Donc, l'analyse de messages entre elle et une de ses amies montre qu'en fait, elle explique bien que elle voulait absolument que quand elle a découvert ce mariage, la première chose qu'elle voulait, c'est qu'il fasse le nécessaire pour que ce mariage soit annulé, parce qu'elle savait bien l'importance que ça pouvait représenter
auprès
de la communauté. Et donc, elle voulait que ce mariage soit annulé. Quand elle a appris qu'il avait un fils, elle a insisté, il fallait absolument qu'il lui présente son fils. Elle a donc rencontré plusieurs fois son fils. Donc elle en souffrait, c'était une bataille pour elle, mais justement, elle se battait, quoi. Elle n'était pas du tout du genre à se faire du mal à elle. C'était... Voilà.
Maître Corinne Herman, on entend la maman, Sylvie Bernard, la maman de Joséphine. Vous êtes avocate et vous défendez cette famille, la famille de Joséphine. Alors, je l'ai dit, parce que c'est important dans cette affaire, la famille mène l'enquête à sa façon et avec les moyens dont elle dispose. Et il y a beaucoup de surprises qui apparaissent. Il y a ce téléphone qui a été activé après, normalement, l'heure de la mort de Joséphine. Son téléphone, on ne sait pas pourquoi, mais il est activé. Puis il y a l'étude du podomètre aussi. On sait qu'elle s'est déplacée. Alors là, c'est vraiment juste avant son décès.
Ce qu'on sait exactement, c'est que le téléphone s'est déplacé. Ou en tout cas, que le podomètre a fonctionné et a marqué des pas. Mais vers où, même si ça a été reconstitué par la famille, qu'ils ont vérifié combien de pas pouvaient correspondre à l'ouverture de la porte de l'immeuble, etc., ou de l'appartement. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est déplacé, qu'il y a des pas. Mais on sait pas vers où, on sait pas pourquoi.
Parce que le papa a refait le trajet.
Mais hein, exactement.
C'est ça, et ça c'est étonnant, mais il a refait le trajet et on s'aperçoit qu'en descendant du troisième
on arrive,
au rez-de-chaussée,
oui.
Et en remontant, on arrive
voilà.
à ce
Mais
ce
c'est l'hypothèse de la famille, et ce qui est atterrant dans ce dossier, c'est que ça n'est pas vérifié par les enquêteurs, ça n'est pas analysé, que les appareils ne sont pas pris analysés de façon sérieuse, et qu'on n'a pas évalué toutes les hypothèses qui auraient peut-être pu nous apporter une réponse. Donc c'est l'enquête des parents, et elle a un sens, c'est un élément nouveau au dossier, mais ça n'est pas exploité ni par la justice, ni par les enquêteurs, comme ça devrait. Et c'est ça qui est inquiétant, et souvent les familles, j'ai d'autres cas du même style, les familles vont à la pêche aux informations, ils font l'enquête elle-même, avec les moyens dont elle dispose, mais c'est quand même atterrant dans ce type d'affaires qu'on n'ait pas des enquêteurs qui tout de suite prennent les choses en main et vérifient les choses.
Oui, il y a un manque d'écoute, et puis les parents, ils ne sont pas reçus par le juge.
Un manque d'envie.
Voilà, c'est ça, il y a un manque d'envie. Alors, il y a l'autopsie aussi, Maître Corinne Herman, ça c'est important, il faut en dire un mot. Elle arrive, la vraie autopsie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu une étude du corps corps qui a pratiquement rien donné. La véritable autopsie, elle arrive, c'est trop tard. Le corps a été exhumé, hein, je l'ai dit.
Oui, le corps a été exhumé. Ça n'est pas trop tard. Il y a des éléments à exploiter dont je peux pas parler aujourd'hui parce que, évidemment, on va essayer de refaire des demandes et de faire avancer tout cela. Il y a des traces qui sont constatées quand même. Puis il y a les traces qui sont absentes, qui devraient être présentes en cas de suicide ou de pendaison. Donc il y a des traces à réinterpréter. Une exhumation, ça n'est jamais trop tard parce qu'on le demande. On a des dossiers, on a fait dans un dossier 36 ans après une exhumation et on a eu des réponses et des nouvelles plaies, des choses qui ont été constatées. Simplement, il faut avoir des spécialistes, il faut avoir des personnes qui connaissent les traces, en tout cas qui correspondent ou à une pendaison, à une strangulation ou en tout cas à une agression. Et il va falloir réinterpréter tout cela, mais il reste des traces. Mmh. Simplement, elles n'ont pas été interprétées par les médecins ou par les experts qui ont regardé. Et ils ne sont peut-être pas allés au bout des vérifications. Il y a peut-être encore des choses à faire.
Donc il y a des choses à faire.
Oui, ça n'est jamais trop tard parce que je le dis régulièrement à nos clients dans des affaires qui ont plus que 6 ans. On fait des exhumations et on constate des choses. Encore faut-il regarder avec soin les choses, le faire avec soin et être un peu spécialisé dans la matière.
Enquête qui redémarre donc très tardivement avec toute une suite d'expertises et de vérifications. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Elle vivait mal notre relation. Elle voulait être la compagne numéro 1. L'enquête de l'heure du crime. Mais pourquoi toutes les conversations téléphoniques ont-elles disparu? Que fallait-il cacher? C'est à suivre dans un court instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Cœur de loup, pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Les cifres et les skis sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser. La victime est si belle et le crime est si gai.
Sur RTL.
Joséphine trouve une carte mutuelle à son nom, à lui, et dessus il est bien noté qu'il a eu un enfant quelques mois auparavant. C'est là où il lui fait comprendre que oui, ça fait peut-être un an qu'ils sont ensemble, mais lui ça fait quelques années qu'il est marié et il vient tout juste d'être papa.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime avec l'étrange suicide de Joséphine Bernard en Seine-et-Marne à l'hiver 2018. Une enquête trop vite close, relancée par la famille qui penche pour un meurtre déguisé, enfin menée, les premières expertises ne vont que renforcer les doutes.
Lundi 30 juillet 2018, le foulard noir qui enserrait le cou de Joséphine Bernard et dont elle se serait servie pour se pendre est enfin expertisé. Les policiers l'avaient touché sans aucune précaution ni protection. Après la découverte du corps, aucun relevé ADN n'avait été effectué. Après ces multiples manipulations, les experts sont malheureusement incapables d'identifier le nombre de personnes qui ont touché le tissu. L'ADN est considéré comme inexploitable. Dans l'appartement de la victime, les policiers avaient également saisi deux couteaux qui se trouvaient sur une table. Ces pièces à conviction sont introuvables. Elles ont été détruites précipitamment. Le téléphone portable de Joséphine Bernard est lui aussi expertisé. Il a cessé d'être utilisé le 12 janvier au soir après la mort de la jeune femme. Le spécialiste est bien incapable d'expliquer pourquoi l'appareil s'est connecté à Google ce même soir à 23h08 alors que la jeune femme était déjà morte. Il n'est pas exclu que cette connexion ait été faite depuis un autre appareil par quelqu'un qui avait enregistré le compte de la jeune femme. Mai 2019, soit plus d'un an et quatre mois après les faits, le téléphone du petit ami est enfin saisi. La famille ne sera informée de ses expertises que deux ans plus tard. Étrangement, on n'a retrouvé aucune conversation par SMS ou sur les messageries Snapchat ou WhatsApp entre le petit ami et la victime. Les relevés téléphoniques montrent que ces échanges ont bien existé. Mais tout a été effacé. À l'heure de la mort de Joséphine, les enquêteurs notent que deux téléphones portables de deux proches du petit ami ont été éteints. Des amis de Joséphine indiquent pour leur part que des photos d'elle et de son petit ami étaient affichées dans l'appartement, mais personne ne les a retrouvées, comme si elles avaient été emportées. Et il faut s'arrêter sur cette histoire de téléphone parce qu'elle est extrêmement troublante. Sylvie Bernard, vous êtes la maman de Joséphine Bernard et vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Si je comprends bien, sur le téléphone du petit ami, et Dieu sait s'il y a eu des conversations entre votre fille et cet homme, il n'y a plus rien, tout a été effacé.
C'est ça. Non seulement tout a été effacé, mais même le journal d'appel qui est donc juste sur un téléphone, hein, les numéros qui sont échangés, enfin le journal d'appel ne donne aucune trace des appels que Joséphine a pu faire depuis 4 ans de relation. Et chose encore plus étonnante, il n'y a plus non plus aucune trace de la double vie, à savoir des appels de sa compagne. Donc pourquoi, si on peut supposer que effectivement il a supprimé les appels de Joséphine vis-à-vis de sa femme, pourquoi avoir supprimé ceux de sa femme? Et ça n'a jamais surpris ni les enquêteurs ni les magistrats.
Sylvie Bernard, est-ce qu'il a été interrogé là-dessus, le petit ami, sur ces messageries qui sont vides et sur ces messages qui disparaissent?
Du tout. Pas jusqu'à présent.
Et ça c'est une demande que vous faites, je suppose?
C'est une demande qui est en cours, oui. Il y a la commission corrogatoire, donc, qui est toujours en cours depuis le mois d'avril 2023. Donc, et c'est une question que on avait fait la demande d'acte à ce que cette personne soit interrogée justement sur la disparition de tous ces éléments sur son téléphone.
Alors Sylvie Bernard, je sais que c'est un moment, vous vivez des moments compliqués, vous continuez à les vivre autant d'années après, c'est un parcours qui est très douloureux pour vous. Je sais que notamment au début des investigations, vous avez eu sans doute un mal fou à être en contact avec des enquêteurs, avec des responsables d'enquête et notamment avec le juge d'instruction, c'est exact ?
Ah oui, c'est exact, oui. On a dû beaucoup insister pour être reçu au tribunal.
Parce que vous,
enfin, le juge d'instruction.
Vous aviez l'impression que vous gêniez un petit peu, pardon de vous poser cette question, mais que vous n'étiez pas forcément les bienvenus, c'est ça?
Ah mais j'avais, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment une impression de mépris, on l'a dérangé, je suis à peu près persuadée que la volonté des enquêteurs et des magistrats était de classer au plus vite. Et qu'avec le recul, ils avaient espéré après le classement sans suite par la substitut en charge de l'enquête préliminaire en mai 2018, je suis persuadée qu'il pensait qu'on allait abandonner. Je pense qu'on les a beaucoup dérangés quand nous nous sommes finalement constitués partie civile.
Bien sûr.
Plus on insiste à chaque fois pour obtenir plus d'informations.
Mais on attendait que vous lâchiez, vous n'avez pas lâché le dossier, vous avez sûrement bien fait, et puis vous aviez envie, vous avez cette persévérance en vous, et vous continuez d'ailleurs à vous battre pour la vérité dans ce dossier. Maître Corinne Herman, vous êtes l'avocate de la famille de Joséphine Bernard. Encore une fois, vous les connaissez bien, ces familles, vous en avez tellement fréquenté, j'en dirais malheureusement tellement fréquenté, des familles comme ça qui sont dans le doute. C'est compliqué, hein, lorsqu'on ne connaît pas la machine judiciaire, comme ça, d'essayer de rentrer à l'intérieur et d'obtenir des réponses.
C'est très compliqué de comprendre comment cette machine judiciaire qui va broyer les familles, parce que c'est la double peine pour les familles. Il y a le drame qui a été vécu, mais il y a aussi cette justice qui les malmène, qui les maltraite, qui ne comprennent pas, dont ils ne comprennent pas le fonctionnement. Et lorsqu'ils posent des questions simples auxquelles on ne répond pas, on essaye de les dissuader de continuer à poser des questions. Et c'est une souffrance absolue. C'est-à-dire que je pense que souvent les familles sont plus détruites par les magistrats, les enquêteurs qui refusent d'entendre leurs cris, ce qu'ils ont à dire, même leurs enquêtes.
Parce qu'elles attendaient un soutien, c'est ça ?
Mais elles attendent surtout qu'on entende ce qu'elles ont dit. Elles ont travaillé, elles ont investi du temps, elles ont des choses à dire et on ne les entend pas. Cette histoire de téléphone où des données sont effacées, on ne se suicide pas sur un coup de tête ou dans une colère et on n'efface pas avant son téléphone. On ne le fait pas.
Ça ne va pas, il y a ces photos qui ont disparu aussi.
Voilà,
tout ça
a disparu, c'est un indicateur fort de quelque chose qui faudrait creuser. C'est le béaba. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être policier ou juge pour le savoir.
Juste un petit mot encore. Je sais que vous êtes optimiste, vous, dans les affaires.
Toujours.
Vous pensez qu'il y a toujours une solution et qu'on va finalement déboucher. Et vous avez bien raison, parce que vous avez pu, comme ça, aider à l'élucidation de beaucoup de dossiers. Là, l'ADN, il n'est pas exploitable, notamment sur l'écharpe.
Moi, je n'ai pas fini l'audit du dossier, donc on verra. Et puis, je ne vais pas trop dévoiler de choses, parce qu'il y a encore certaines personnes qui peuvent nous entendre, ont tout intérêt à ce qu'on abandonne et on leur donne, en tout cas, peut-être des informations dont ils n'ont pas besoin. Mais on a encore du travail.
Avant de mourir, la jeune femme se sentait menacée. Joséphine Bernard, un impossible suicide. Si je finis dans la page des faits divers, tu sauras pourquoi. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, question autour de la mort mystérieuse en janvier 2018 de Joséphine Bernard, 27 ans, vendeuse à Disneyland Paris. La justice croit un suicide, trop de zones d'ombre pour la famille selon elle. La jeune femme vivait sous la menace. Dans les semaines précédant sa mort, Joséphine Bernard n'était pas tranquille. À une amie, elle avait fini par se confier sur la relation entretenue depuis 2014 avec son petit ami, une relation qu'elle tenait à préserver même si ça allait mal, disait-elle. Joséphine avait ainsi fait part de ses inquiétudes à propos de la famille de son compagnon, des proches qui n'acceptaient pas leur relation, notamment à cause du fait que la jeune femme n'était pas de confession musulmane. Des témoins confirment les tensions entre la famille du petit ami et la victime. Joséphine avait fait part de tentatives d'intimidation en évoquant des coups de téléphone anonymes ou nocturnes. La jeune femme avait ainsi changé deux fois de numéro de téléphone portable. Une de ses collègues raconte avoir vu un jour débouler sur le lieu de travail la femme de son amant. Elle était venue à la rencontre de Joséphine, mais sans la trouver, car elle ne travaillait pas. Devant une amie, Joséphine Bernard avait prononcé cette phrase « Si je finis dans la page des faits divers, tu sauras pourquoi ». Elle avait même eu la même réflexion auprès de sa mère en concluant « Faudra pas t'étonner ». Jeudi 21 janvier 2021, saisie par les parents de Joséphine pour des demandes d'actes, la Cour d'appel de Paris revient sur ce contexte de menace. Les juges écrivent que l'enquête ne peut pas ignorer l'hostilité de la famille du petit ami et de sa femme à l'encontre de la victime. Elle souligne l'attitude du petit ami, sa double vie, ses dissimulations et certaines bizarreries dans son comportement. Le jour et le lendemain de la mort de la jeune femme, septembre 2023, un nouveau juge d'instruction est désigné. Quatre mois plus tard, les experts confirment que le téléphone de Joséphine n'a jamais pu être débloqué et ne pourra pas parler. Et dans cette heure du crime, on retrouve Sylvie Bernard. C'est la maman de Joséphine Bernard. Et je rappelle que cette émission, elle est totalement dédiée à Joséphine Bernard. On essaie d'avancer dans cette histoire qui a déjà beaucoup trop traîné. Et il faut maintenant avancer vers la vérité. Sylvie Bernard, il y a cette phrase qu'elle prononce qui est terrifiante. D'ailleurs, peut-être le disait-elle sur le ton de la plaisanterie, mais c'est pas sûr. Joséphine, si je finis dans la page des faits divers, tu sauras pourquoi. Elle vous a bien prononcé cette phrase, votre fille?
Alors, non, c'est pas moi qu'elle l'a dit.
À une amie, c'est ça?
Je pense. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai appris qu'elle avait dit ça à cette amie le jour de ses obsèques, en fait. Puisque c'est cette amie qui est venue me voir le jour des obsèques de ma fille pour me dire, tu sais, la dernière fois qu'on a déjeuné ensemble, Joséphine m'a dit ça. C'était sur le ton de la plaisanterie, évidemment. Mais aujourd'hui, je peux pas oublier cette phrase. Et voilà. Et donc, moi non plus, je ne peux plus oublier cette phrase.
Est-ce que, Sylvie Bernard, quand vous voyez votre fille pour la dernière fois ou dans les semaines qui ont précédé le drame, est-ce que vous sentez que votre fille, elle est inquiète, que ça va pas très bien ou qu'elle se pose des questions ou pas du tout, elle a jamais changé d'attitude?
Alors, en fait, la dernière fois que Joséphine était venue à la maison, c'était entre Noël et Nouvel An, et elle allait très très bien, puisque elle était en pleine forme, au travail, ça se passait super bien, elle prévoyait les sorties avec les collègues, avec sa team, puisqu'elle était devenue team leader, donc elle était fière de ça. Et par contre, la fois précédente, c'était une fois où ça n'allait pas trop parce que elle avait rompu avec son petit ami parce que elle en avait marre. Elle s'était bien rendue compte qu'elle n'était pas prioritaire à sa vie et que ça suffisait. Et donc là, c'était terminé. Mais alors, elle était évidemment triste, mais plutôt plus que triste, elle était surtout en colère. Et surtout, moi à l'époque j'étais animatrice en Zumba et j'animais justement un stage, c'était en fin octobre 2017, j'animais un stage pour Halloween et Joséphine est venue danser à mon stage. Et si vous voulez, elle venait de rompre avec son petit ami, elle vient danser à mon stage. Deux mois après, les enquêteurs m'annoncent que c'est parce qu'elle a rompu avec son petit ami qu'elle s'est suicidée. J'ai beaucoup ça aussi, oui. Ça aussi je leur ai dit, mais comment voulez-vous que je vous croie? Qu'elle soit en colère, qu'elle soit triste, tout ce que vous voulez, oui, ça c'est évident, mais qu'elle mette fin à ses jours pour ça, non.
Non, ça marche pas. C'est, effectivement, on ne peut pas y croire, et effectivement, cette enquête, d'ailleurs, grâce à vous, elle a été relancée. Vous avez plus de soutien aujourd'hui, je suppose, de la part de la magistrature. Je citais la cour d'appel qui dit il faut pas oublier ce contentieux qu'il y a avec le petit ami et puis avec la famille du petit ami, c'est important.
Pour nous, ça a été un très très gros soulagement de lire cette conclusion du président de la chambre de l'instruction. C'était donc en mai 2022. Donc là, on s'est dit ça y est, enfin, on va y arriver.
Bien sûr.
Et ils vont mettre les moyens qu'il faut et on va réussir. Et en fait, le problème, c'est que c'est tout à fait ça, quoi. C'est que sans parler du chagrin qui est là, le manque qui est là tous les jours, on a aussi cette impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles depuis 6 ans. Notre état, en fait, aussi entre l'espoir et la désespérance, parce que en fonction de la manière dont est traité le dossier.
Eh oui.
Et c'est tué pour nous, c'est une véritable torture. Quoi. Oui.
Et, je
et là, on reprend espoir en 2020.
Et je comprends bien, c'est
oui,
une
on
espèce...
on reprend espoir en 2022, et puis après, d'un seul coup, derrière, on apprend que finalement, non, les téléphones n'ont rien donné, les nouvelles auditions ne sont même pas croisées. Enfin, c'est...
Corinne Herman, encore une fois, on entend la maman, hein, vous la défendez, cette maman, et puis là, cette famille aussi. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Il y a la famille du petit ami, là, on sent bien qu'il y a... C'est pas un obstacle, en tout cas, quand tout ce monde-là ne s'entendait pas avec Joséphine pour des raisons diverses, on va pas revenir là-dessus. Il faut les entendre à nouveau, ou peut-être les entendre tout court, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été entendues jusqu'à présent.
Bien, il faut entendre tout le monde, il faut croiser toutes les déclarations des uns et des autres. Manifestement, aujourd'hui, on a un dossier qui est fondé sur les déclarations de ce petit ami qui sont très variables. Ça suffit pas pour construire un dossier et se construire une conviction. Et puis surtout, ce que rappelait la maman de Joséphine, c'est que il y a eu beaucoup d'appels menaçants ou anonymes, au point qu'elle changeait de téléphone. Et je pense que quand même, l'enquête aurait pu s'intéresser d'abord à ces éléments-là,
évidemment,
des éléments matériels à vérifier. Et donc, il y a des choses qui faut recomptabiliser, et si ça nous amène vers la famille, à ce moment-là, effectivement, il faut faire le nécessaire. Et aujourd'hui, on a le sentiment que, voilà, comme on a décidé que c'était un suicide, on bloque tout, et on bloque toutes les vérifications, surtout pas de vérification, si ça nous amène sur une autre piste.
Et vous avez le sentiment que c'est toujours l'état d'esprit, aujourd'hui, qui prévaut?
Ah, mais c'est l'état d'esprit dans tellement de dossiers que je pense que c'est l'état d'esprit qui prévaut. C'est un dossier classé, c'est un dossier qui est rangé, c'est un dossier...
qui nous ennuie, c'est ça.
Qui part aux oubliettes, voilà, oui. Et c'est le risque, et c'est la problématique des colcaises, c'est qu'un jour, les familles, elle continue à se mobiliser, n'accepte pas cette vérité judiciaire qui ne correspond pas aux éléments qu'objectivement ils ont constatés, et donc ça ressort plus tard, et ça ressort de façon plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à travailler, donc profitons que ce dossier est encore pas trop ancien pour motiver les magistrats et les policiers, mais ils ne le sont pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait un pôle spécialisé, c'est pour ça qu'il faut qu'on remotive des magistrats et des enquêteurs qui fassent le travail nécessaire et à minima, qui vérifient les choses. Quand on parle de photos qui ne sont pas là, d'appels anonymes, de modification d'un téléphone, on a quand même des indices forts de quelque chose d'inquiétant, on va dire.
Oui. Et il faut absolument regarder de près, évidemment. Une justice trop lente qui va être sanctionnée. Joséphine Bernard, un impossible suicide, des négligences et fautes graves qui ont perturbé la recherche de la vérité. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Toi.
Alphonse Richard
sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort jamais élucidée en janvier 2018 en Seine-et-Marne de Joséphine Bernard, 27 ans, employée à Disneyland Paris. Un suicide improbable, mais le meurtre est-il possible? Plus de 6 ans après, la famille se bat toujours pour la vérité. Mai 2022, le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour négligence et faute grave dans l'enquête Joséphine Bernard. Le tribunal dénonce la destruction de scellés et la mauvaise protection du foulard de la victime. Tous ces événements ont perturbé les recherches des causes du décès et prolongé l'incertitude sur la réalité des faits, écrivent les juges. Les parents de Joséphine, qui déplorent une enquête bâclée, espèrent toujours un dénouement, une longue attente qui, pour la maman, est comparable à une torture psychologique.
Je suis dans l'attente. Je pense que cette attente, elle durera jusqu'à ce qu'on puisse avoir une réponse et qu'on puisse savoir vraiment ce qui est arrivé à Joséphine. Puisque tant qu'on n'a pas de réponse, on pourra pas rester les bras croisés, c'est pas possible.
La voix de Benjamin Bernard, c'est le frère de Joséphine et c'est une interview qui était passée dans un numéro d'enquête criminelle sur W9. Maître Corinne Herman, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, avocate au barreau de Paris et avocate de la famille de Joséphine Bernard, à qui cette émission est dédiée, je le rappelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'enquête? On s'y perd un peu, j'avoue que ça a été clos, c'est reparti, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Aujourd'hui, le dossier est dans les mains d'un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Meaux. Donc, c'est une instruction qui est en cours. Dans le cadre d'une instruction, les parties civiles, les parents de Joséphine, les frères, la famille de Joséphine s'est constituée partie civile. Donc, ils sont partis au procès. Et avec leur avocat, en l'occurrence, moi et Sonia Kanoun, on va pouvoir faire des demandes. Donc, on va pouvoir renouveler les demandes d'actes dans ce dossier, faire des demandes au juge d'instruction, essayer de le motiver à suivre nos demandes et à faire les vérifications que la famille demande ou qu'on va demander.
J'ai l'impression que vous repartez un peu à zéro. Oui. Pas tout à fait quand même, hein, faut pas exagérer.
On repart avec un existant, c'est le principe du cold case, c'est-à-dire qu'on a un dossier existant qu'on peut analyser et dans lequel on peut noter ce qui n'a pas été fait et ce qui explique qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été exploité? Quelles sont les déclarations qui sont contradictoires? Et on va expliquer au juge que nous, on veut des vérifications sur ces aspects-là. Et donc, la famille peut pleinement faire des demandes devant le juge d'instruction. Donc, c'est plutôt... On est encore dans une phase de l'instruction où on peut faire des choses.
Et ça, c'est important, évidemment, oui. il faut le rappeler. C'est pas fermé, on continue à travailler et vous connaissant Maître Corinne Herman, évidemment vous allez accélérer la marche de ce dossier. Sylvie Bernard, vous êtes avec nous au téléphone de l'heure du crime et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la maman de Joséphine Bernard.
Merci à vous.
Non, c'est vous qu'il faut remercier parce que c'est vous qui avez fait repartir cette enquête, parce que sans la famille, eh bien aujourd'hui il n'y aurait même pas Corinne Herman aujourd'hui dans le studio pour nous parler de ce dossier. Sylvie Bernard, comment vous avez vécu toutes ces années? Vous parliez tout à l'heure de montagne russe, un jour au plus bas, un jour avec de l'espoir. C'est toujours comme ça aujourd'hui?
Oui. Oui, tout à fait. Oui. Quand vous savez, ne serait-ce que pour les expertises de téléphone, donc suite à la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, les téléphones sont partis en contre-expertise. Là, vous apprenez que le téléphone de Joséphine est parti dans un organisme qui s'appelle le CTA, donc le centre technique d'assistance, je pense. Quand vous regardez un peu, vous renseignez, vous voyez sur Google que c'est le top du top en termes d'experts, donc vous vous dites super, on va enfin savoir ce qu'il peut y avoir de supprimé dans le téléphone de notre fille, et puis ça dure, c'était en 2021, vous voyez, et puis finalement en janvier 2024, on apprend que ben même les experts du CTA n'ont pas réussi à débloquer le téléphone de notre fille. Un téléphone, tout ce qu'il y a de plus basique pour une utilisatrice, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, enfin c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre,
bien
évidemment.
Sûr.
Et donc voilà, c'est ça pour tout. À chaque fois, on reprend espoir, on se dit ça y est, et puis d'un seul coup, paf, on retombe parce que ah ben non, finalement,
alors c'est
on n'a pas réussi à.
C'est évidemment pour Joséphine que vous faites tout ça et que votre famille se bat.
Ah oui.
Je suppose que vous y pensez tous les jours à Joséphine et qu'elle anime votre combat.
Tous les jours, toutes les nuits. Oui.
Parce que c'est important de se battre pour elle,
mais...
c'est ça?
C'est important de se battre pour elle, parce que moi, je reste persuadée que des gens lui en voulaient, que quelqu'un lui a fait du mal, voire même plus que mal, puisque quelqu'un l'a probablement tué. Et pour moi, c'est juste insupportable que cette personne ne soit pas devant un juge.
Et je comprends bien. Et c'est important parce que vous êtes en direct aujourd'hui, Sylvie Bernard, sur RTL, et il faut toujours le rappeler, parce qu'on le fait toujours dans l'émission. Il faut dire aux gens qui ont peut-être vu ou qui savent quelque chose ou qui ont entendu des choses de se manifester. Ça, vous pouvez faire une demande dans ce sens, Sylvie.
Ouais, tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui suis là, hein, parce que c'est effectivement mon combat, c'est viscéral, c'est ma fille. Mais je ne suis pas seule, bien entendu. Il y a Richard, le papa de Joséphine. Il y a aussi les trois frères de Joséphine et sa marraine, ma sœur, qui sont partie civile aussi. Il y a tous les cousins, les cousines de Joséphine, les amis, les proches, les moins proches, les collègues, de nombreuses personnes qui nous connaissent de près ou de loin. Et ils sont tous avec nous. Et aussi, je me permets de demander aux auditeurs, si vous connaissez Joséphine, si vous vous souvenez de quelque